Vous êtes bien toute la nuit avec Radio Classique. Les disques de légende. C'est la nuit sur Radio Classique.
Radio Classique.
Thank you.
Radio Classique de nuit, tous les jours à minuit, sur Radio Classique.
Radio Classique, rediffusion de la matinale d'hier. l'invité de Comment j'ai réussi, Benatou Benichou. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de l'Académie des métiers du cinéma et de l'audiovisuel, l'AMCA. C'est une école assez récente. Elle a été fondée par une scénariste. Qu'est-ce que représente ce secteur d'activité, celui du cinéma, en termes de débouchés? On sait que dans ce secteur, il y a très très peu d'élus, très peu de personnes vont bien gagner leur vie et beaucoup risquent, comme on dit, de galérer, parfois même en situation de précarité. Qu'est-ce que vous dites aux étudiants qui entament un cursus chez vous? Est-ce que vous leur tenez ce discours de vérité?
Oui, absolument. Parce que d'abord, quand on vient vers ce métier, c'est d'abord une passion. Et cette passion veut devenir un métier. Et on doit leur dire la vérité. C'est pas un métier facile. D'ailleurs, Spielberg dit que c'est le métier le plus dur au monde.
Une passion, ça ne remplit pas toujours le frigo. Hein.
Tout à fait. Mais avec cette passion, normalement, on doit quand même se tenir parce que de toute façon, on regarde tous des films et on voit le générique à la fin. Il n'y a pas qu'un réalisateur, il y a toute une équipe derrière. Il y a des centaines de personnes qui travaillent dans les films. Les débouchés existent, mais à condition qu'on doit être formé à bien comme il faut pour pouvoir y intégrer et choisir le métier qu'il faut. On veut tous devenir réalisateur, mais réalisateur on devient, c'est le mot exact qu'on m'a dit, c'est De Broca qui m'a dit réalisateur on devient. Alors il faut prendre le temps de pouvoir devenir réalisateur, mais il faut intégrer le métier.
Tout le monde ne deviendra pas Steven Spielberg, mais effectivement, vous formez beaucoup de techniciens audiovisuels, des caméramans, des preneurs de son, des décorateurs, des scénaristes aussi. Ouais. Est-ce que les nouveaux médias, les réseaux sociaux, constituent pour toutes ces personnes des opportunités intéressantes en termes de débouchés?
Oui, tout à fait, parce que d'abord, toutes les entreprises maintenant utilisent l'image et le son pour pouvoir un peu communiquer. Mais il n'y a pas que les réseaux sociaux et les médias, il y a les chaînes, les nouvelles chaînes, le streaming, voilà, c'est tout ce qui est Netflix, Amazon, etc. On a besoin de contenu. Et quand on a besoin de contenu, d'ailleurs on le voit qu'il y a de moins en moins de contenu, on fait que des remakes, etc., etc. Maintenant il faut venir avec des nouvelles idées, avec des personnes créatives qui arrivent, avec aussi des scénarios un peu originaux, qui permettent aussi de pouvoir tenir le public et avoir plus de personnes qui regardent ces films.
L'éléphant dans la pièce, comme on dit, celui qui va vraiment bouleverser ce milieu, c'est l'intelligence artificielle qui va changer la donne pour beaucoup de métiers, dont celui de la production audiovisuelle. Comment est-ce que vous intégrez les nouveaux outils d'intelligence artificielle dans votre formation?
Alors, il y a les outils, tous les outils de l'intelligence artificielle sont là pour aider à la création. Ça crée pas, l'intelligence artificielle, ça crée pas, plutôt elle cherche partout pour pouvoir proposer une solution.
Mais ça peut écrire des scénarios.
Non, ça peut aider à écrire un scénario, mais elle donnera pas une idée. La preuve que, on va dire, l'intelligence artificielle reste artificielle. L'être humain parle de l'être humain. Et puis, je pense que la création artistique, on a déjà vu, quand on a inventé Photoshop, etc., on disait, oui, les outils de création d'images vont un peu révolutionner la peinture, etc. Un peintre et avec son art, reste son art, et puis l'être humain mettra toujours vraiment sa patte, et c'est ça qui est important. L'intelligence artificielle, elle est là pour aider et pour apporter. L'être humain a toujours créé ces outils-là, et tant mieux, il faut les utiliser pour pouvoir enrichir et adapter un petit peu ce qu'on veut créer.
Mais est-ce que c'est pas difficile d'enseigner aujourd'hui à des étudiants des choses qui seront peut-être totalement caduques dans quelques mois?
Ben c'est ça l'Académie des métiers de cinéma. Ce qu'on veut enseigner aux étudiants, que c'est en évolution. Vous savez, on a commencé le cinéma avec la pellicule, maintenant on n'est plus pellicule, et quand le numérique est arrivé, tout le monde a eu peur du numérique en disant, ouais, c'est pas possible, etc., etc. On s'est adapté. Ça nous permet de faire plus de prises, ça nous permet d'être plus à l'aise, ça nous permet d'avoir des images encore plus performantes, etc. Mais ça change pas. C'est pas parce qu'on a la meilleure caméra au monde qu'on fera le meilleur film.
Et d'ailleurs, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'énormes caméras puisqu'on peut tourner des images d'assez bonne qualité avec un smartphone. Ça change la donne pour une école comme la vôtre? Est-ce qu'il y a une écriture particulière audiovisuelle lorsqu'on filme avec un téléphone? Il y a même des festivals de films filmés avec des
téléphones. Ça donne pas parce que ça dépend comment ça existait déjà avant, hein, quand le téléphone est arrivé, les smartphones sont arrivés. On a déjà fait des films comme ça. Hein, il y a pas de problème. C'est qu'un outil. Ça change pas parce que la création, c'est plutôt nourrir l'étudiant pour pouvoir être créatif et pouvoir être original.
Le cinéma et l'audiovisuel sont des métiers de réseau, avec rarement des offres d'emploi qui sont publiées. Il faut connaître quelqu'un généralement dans ce métier pour avancer. Est-ce que vous permettez à vos étudiants d'accéder à un réseau?
C'est exactement ce qu'on fait chez AMCA, parce que d'abord, tous les personnes qui travaillent chez MK, c'est des personnes en activité, c'est des réalisateurs connus, comme Ian Samuel, comme d'autres personnes, chez Hachenouga, etc. Des personnes qui sont encore en activité, qui font des films. Ça, c'est le premier réseau. Le deuxième réseau, il y a le parrainage. S'il n'y a pas de parrainage par des réalisateurs ou des personnes qui sont déjà à l'intérieur du métier, les étudiants ne peuvent pas créer leur réseau.
Est-ce que c'est pour cette raison que vous proposez seulement 60 places par an ?
Oui, pour d'abord individualiser la formation. Vous savez, quand on arrive dans une école artistique, on a tous des qualités et des défauts, où on est plus performant dans tel domaine et pas dans l'autre. Pour individualiser, il ne faut pas avoir des grandes promotions, il faut avoir des petites promotions, et surtout, il faut avoir ce qu'on appelle un accompagnement et une personnalisation de la formation.
Comment se passe la sélection chez vous ? Comment est-ce que sont triées les candidatures ?
Alors, il y a un dossier de candidature, c'est normal pour connaître un petit peu la personne quand il arrive, mais il y a surtout deux entretiens. Un premier entretien qui est pour connaître un petit peu le projet de l'étudiant, parce qu'on arrive toujours avec l'idée, oui, je vais devenir réalisateur,
oui,
je vais
beaucoup.
Devenir... Oui, à un certain moment, la plupart, 90% qu'ils arrivent, ils disent, je vais devenir réalisateur. Mais à un certain moment, on va creuser un petit peu
et le
projet.
Et on se confronte à une réalité.
Oui, et les confronter et leur dire la vérité, en disant, pour devenir, il faut d'abord rentrer. Et pour rentrer, il faut rentrer par la petite porte et après avancer.
Alors, vous venez de me dire, l'intelligence artificielle ne crée pas de scénario. Je viens de demander à Gemini, l'IA de Google, de me proposer des idées de scénario. J'ai plusieurs propositions. Un thriller d'anticipation, l'effaceur de regret, je vous fais grâce du synopsis. Un drame fantastique, l'écho de la rue Mercœur. Une comédie noire, faux départ. Voilà, les trois propositions. Comme quoi, bon,
je ne dis pas qu'elle ne crée pas. Voilà. J'ai dit, elle peut aider, elle peut vous proposer. Il n'y a aucun problème, moi. L'intelligence artificielle, elle nous propose plein. C'est comme si on demande un courrier, elle va nous proposer un courrier.
Bon, je vais les lire et je vous propose un projet.
Ça n'empêche que vous devez retravailler ça, hein, et pour être vraiment personnalisé le synopsis et le scénario. Sinon, elle va le proposer à quelqu'un d'autre. Hein.
Merci beaucoup, Benatou Benichou, d'être venu ce matin. Vous êtes le directeur de l'AMCA, l'Académie des métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Toute
Merci
jeune école fondée par une scénariste. On peut déjà envoyer des candidatures pour la rentrée 2026.
Ouais, tout à fait, ça a commencé déjà.
Radio Classique, rediffusion de la matinale d'hier.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Stéphane.
Ce matin, vous nous parlez de la Chine et de l'intelligence artificielle et d'un système appelé Panda. Ça ne s'invente pas. De quoi est-ce qu'il s'agit ?
Stéphane, il se passe quelque chose de très important et qui est assez peu commenté en Europe. Dans plusieurs grands hôpitaux chinois, on a commencé à déployer une intelligence artificielle capable de détecter le cancer du pancréas plusieurs mois, voire plus d'un an avant qu'un médecin ne puisse le voir. Alors, comme vous savez, le cancer du pancréas est l'un des plus redoutables. Il donne très peu de symptômes. Le pancréas est un organe très profond. Donc, ce cancer est presque toujours diagnostiqué trop tard, avec un taux de survie à 5 ans qui est de l'ordre de 10%. Lorsqu'il est détecté tôt, on peut passer à 50% de survie. Donc, chaque mois, un gagné en termes de détection précoce sauve littéralement des vies. Alors, l'IA en question, dont on parle ce matin, qui en effet s'appelle Panda, analyse des scanners qui ont été déjà réalisés pour autre chose, des douleurs abdominales, il s'agit de bilans digestifs, de contrôle de routine. Et cette imagerie, cette intelligence artificielle, repère des micro-signaux invisibles pour l'œil humain qui annoncent un cancer du pancréas naissant. Cette IA dépiste des cancers du pancréas sans aller explorer l'intérieur du pancréas.
Donc ce n'est pas un nouveau dépistage à la fois coûteux et invasif.
C'est ça tout l'intérêt, c'est là la vraie révolution. On ne parle pas d'examens supplémentaires, mais de scanners abdominaux absolument banals, sans injection de produits de contraste, qui jusqu'ici n'étaient absolument pas utilisés pour dépister le pancréas, parce que l'image du pancréas est trop floue pour l'œil humain et ne donne pas à voir l'organe. L'intelligence artificielle transforme des examens déjà existants en dépistage automatique, sans coût supplémentaire, sans radiation, sans modification du parcours du patient. En fait, c'est une médecine préventive invisible. Ça ne change rien pour le patient, mais le système de santé commence à détecter silencieusement des maladies avant qu'elles ne deviennent mortelles.
Et pourquoi est-ce que la Chine va aussi vite dans ce domaine ?
Alors la Chine dispose de trois avantages décisifs. Déjà, des volumes massifs de données médicales, les data indispensables pour entraîner ces IA. Ensuite, une intégration extrêmement performante entre l'intelligence artificielle et les hôpitaux, avec des partenariats industriels puissants. Et puis, troisième chose, une régulation beaucoup moins stricte qu'en Europe, qui permet de passer rapidement de la recherche au déploiement clinique. Le résultat, c'est que pendant que les États-Unis ou a fortiori l'Europe se débattent encore avec l'intelligence artificielle en santé, la Chine est déjà en train de sauver des vies. On bascule vers une médecine qui ne se contente plus de soigner, mais qui surveille en permanence la biologie humaine avant même que nous sachions que nous sommes malades, avec à la clé des économies pour le système de santé.
Merci beaucoup, Nicolas Bouzou.
Radio Classique. Rediffusion de la matinale d'hier.
Bonjour François Vidal.
Bonjour David.
Donald Trump est manifestement prêt à tout pour mettre la main sur le Groenland. Sa menace de sanctions commerciales contre les pays européens qui s'y opposent en a apporté une nouvelle preuve ce week-end.
Oui, la voie du chantage qu'il a décidé d'emprunter pour arriver à ses fins dit en tout cas beaucoup du peu d'estime dans lequel il nous tient. Après avoir obtenu gain de cause assez facilement l'été dernier dans son bras de fer avec l'Union européenne sur les tarifs douaniers, il est manifestement convaincu qu'en agitant de nouveau le risque d'une guerre commerciale, il parviendra à annexer le Groenland rapidement. Une attitude qui valide a posteriori l'idée qu'en refusant le rapport de force sur le dossier commercial, Bruxelles a commis une erreur stratégique. Dans l'esprit de Trump, nous sommes un peu le hagnant de la géopolitique mondiale, le bon élève du petit Nicolas, incapable de se défendre. Et comme il vient d'essuyer plusieurs revers aussi bien sur le front intérieur, où ses projets de mainmise sur la fête sont entravés, que sur la scène internationale, où le régime iranien s'accroche au pouvoir par tous les moyens, y compris les plus cruels, il se tourne vers nous à la recherche d'un succès facile.
Mais les Européens ont l'air bien décidés à se défendre cette fois.
Oui, ils ont raison. En brandissant, comme le demande Paris, le bazooka anti-coercition, ils pourraient menacer à leur tour de restreindre les importations provenant des États-Unis, voire de bloquer les investissements américains. L'objectif ne doit pas être de s'engager dans une escalade menant à une guerre économique transatlantique, mais de rétablir une forme d'équilibre qui va bien au-delà de la question du Groenland. Face à Trump, qui ne négocie pas mais impose, les Européens doivent être prêts à assumer un rapport de force économique et politique. S'ils sont en mesure de maîtriser ce rapport de force, ils peuvent espérer peser face à Washington sur tous les grands dossiers stratégiques. Sinon, la présidence Trump, qui fêtera cette semaine son premier anniversaire, risque d'être longue et pénible pour l'Europe.
L'éditorial de l'économie par François Vidal avec les Échos qui titre ce matin « Budget, les entreprises paient la note ». Et c'est vrai que l'économie française est à la merci de l'escalade tarifaire provoquée par Donald Trump, qui peut mettre l'économie française par terre. Et puis, il y a ce budget dans lequel on voit que la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ne sera pas baissée, de même que la surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises est maintenue. Voilà autant de mauvaises nouvelles pour l'économie française.
Radio Classique. Rediffusion de la matinale d'hier.
Bonjour Christopher Demnick. Bienvenue sur Radio Classique. La France réclame l'activation de l'instrument anti-coercition de l'Union européenne en réponse à l'augmentation des droits de douane américains annoncée par Donald Trump. Cet instrument n'a jamais été utilisé. Il est présenté comme l'arme nucléaire des relations commerciales. Quelles conséquences est-ce que ça pourrait avoir sur notre économie? Est-ce que vous pensez que l'Europe, en voulant pénaliser les États-Unis, risque de se tirer une balle dans le pied?
Complètement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Europe n'est pas immunisée, et surtout elle est très dépendante aussi des États-Unis, y compris en termes d'investissement. Il suffit de regarder juste un sujet qui est très tendance depuis un an, c'est la défense. Une grande partie de nos matériels sont dépendants des Américains, notamment en termes de maintenance. Il suffit effectivement qu'on dégoupille cette fameuse arme nucléaire et que les Américains répliquent tout simplement sans maintenance de nos outils militaires. Donc ils ont énormément aussi de leviers derrière cela, et le risque, c'est d'être dans une situation un peu perdant-perdant, où finalement, à la fin, et je pense que Trump le sait, les Européens courberont les Chines.
Ouais. Sur le plan financier, l'Europe est très dépendante des États-Unis. Est-ce qu'on peut se permettre une décorrélation, ne serait-ce que sur les réseaux de paiement, Visa, Mastercard, American Express, ce sont tous des réseaux américains sans équivalent en Europe?
Complètement. On n'a jamais réussi à construire une myriade d'infrastructures. On regarde même dans le cloud. Si vous regardez vos applications juste sur vos smartphones, ou même d'ailleurs le smartphone lui-même est souvent américain. Donc la réalité, c'est qu'on a eu créé une dépendance qui est telle qu'aujourd'hui, essayer de brancher dire cet outil, c'est de la communication, mais je pense que tout le monde a conscience qu'il n'y a aucun levier en face qui permette d'être suffisamment dur face aux Américains.
François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, disait la semaine dernière à nos confrères de BFM TV que les États-Unis étaient en train de semer les graines d'une prochaine crise financière. Il parlait de la dérégulation du secteur bancaire aux États-Unis, mais est-ce que plus généralement, vous avez le sentiment que la politique de Trump à l'international risque d'entraîner une crise financière?
Non, pas nécessairement. Et la réalité, c'est qu'on ne sait jamais ce qui va advenir avec une crise financière. Tous les deux, je pense qu'on a suffisamment d'expérience pour savoir les éléments qu'on mettait en avant, ça n'a jamais traduit par une crise financière. C'est toujours des points du marché qui sont hors des radars.
C'est généralement le scénario qu'on n'attendait pas.
Exactement, complètement inattendu. Aujourd'hui, la déréglementation aux États-Unis, elle a effectivement là. Mais là où il y a des points de fragilité, comme les banques régionales, vous avez finalement plus de réglementation sur ce levier-là. Donc c'est complètement erroné. On n'a aucun élément qui font qu'aujourd'hui la politique de Trump serait susceptible de créer une crise financière.
Le forum économique de Davos débute aujourd'hui, il va durer jusqu'à vendredi. Est-ce que ce type d'événement a encore du sens pour l'économie mondiale?
Alors on est assez dubitatif, puisqu'aujourd'hui, à part quelques modèles économiques, tout le monde est effectivement capitaliste, considère que la mondialisation a quand même des bienfaits au final, et on a suffisamment de chiffres pour corroborer cet aspect. Peut-être l'élément qui est intéressant, c'est qu'on a eu les Américains qui viennent en force, alors qu'ils avaient négligé Davos, y compris sous Biden, mais beaucoup plus bien sûr sous le premier mandat de Trump. Donc il y a une opération séduction. À mon avis, je l'analyse de cette manière, c'est que les Américains aujourd'hui font face à un petit problème de leur politique, c'est la dédollarisation. Les États cherchent à utiliser d'autres monnaies. Donc c'est aussi peut-être une opération séduction pour rappeler les États-Unis sont incontournables et on peut faire encore du business avec vous, même si effectivement ça peut être un peu rugueux parfois.
Oui. Mais est-ce que les marchés financiers en attendent quelque chose de ce forum économique mondial?
En général, c'est un non-événement. Et cette année encore plus, quand vous êtes dans une situation où l'économie mondiale va bien, elle est proche de son potentiel, les marchés financiers se portent plutôt bien sur l'ensemble, il y a des belles performances un peu partout, y compris en Europe. Donc c'est vrai que c'est pas un enjeu pour les marchés.
Vous parliez de la dédollarisation. L'administration Trump s'est de nouveau confrontée à la réserve fédérale ces derniers jours, la Banque centrale américaine. Est-ce que là encore, il n'y a pas un risque pour la stabilité monétaire, pour la force du dollar et par effet de levier sur l'économie mondiale?
Alors ça peut accentuer justement cette volonté d'être un peu moins exposé au dollar. Est-ce que ce sera suffisant pour que ça se voit vraiment dans les chiffres ou que ça ait un effet structurel? Probablement pas. Ce qu'il faut rappeler, c'est que Trump joue beaucoup de la communication, mais tous les présidents de la Fed ont été confrontés à un président américain compliqué, qu'il soit démocrate ou républicain. Vous aviez le New York Times en 1965 qui disait que Johnson, démocrate, avait même bousculé le président de la Fed dans son ranch au Texas, parce que le président de la Fed voulait pas effectivement aider la politique de la Maison-Blanche. Donc c'est un peu structurel avoir toujours ce sujet-là. La Fed est indépendante, mais malgré tout, il y a une forte pression de la Maison-Blanche.
La politique de Donald Trump a aussi entraîné une remontée des taux obligataires sur les marchés. Est-ce que ça peut aussi entraîner une hausse des taux pour nous, Européens, et donc renchérir le coût de notre dette?
Oui, ça, je pense que c'est assez inévitable. Il y a un sujet aujourd'hui dans les pays occidentaux, c'est quand même le sujet de la dette, qui est vraiment palpable. Aux États-Unis, rappelons que Trump a été élu en disant on va baisser la dette, et c'est tout le contraire qui se produit. En Europe, on n'arrive pas structurellement à baisser la dette, malgré des investissements, malgré la volonté, effectivement, d'augmenter la croissance, qui pourrait potentiellement, à un certain stade, faire baisser le niveau de la dette. Donc, indéniablement, je pense qu'il faut comprendre qu'on a de la chance encore que les taux soient pas aussi élevés qu'ils devraient l'être, parce qu'on a des banques centrales qui se permettent de jouer le coussin de sécurité. Mais dans un monde réel, en économie, on devrait emprunter à des taux beaucoup plus élevés. La France, même l'Allemagne, qui est plutôt un bon élève, et bien sûr les États-Unis.
Ouais. Quel est l'ordre de grandeur?
Pour la France, typiquement, on devrait être autour de 4 à 5% sur du 10 ans, alors qu'on est plus autour des 3% en règle générale.
C'est-à-dire relativement proche des taux américains.
Exactement. Et donc, vous avez ce qui se passe sur le marché ne reflète pas les réalités structurelles en termes de dette et de déficit.
Vous êtes un acteur des marchés financiers qui ne se sont jamais aussi bien portés. La Bourse de Paris a récemment battu un nouveau record, malgré l'incertitude, malgré la fragmentation du monde. Est-ce que vous avez le sentiment, et je crois vous avoir posé plusieurs fois la question, que les marchés sont décorrélés de la réalité?
Complètement. Ce qui compte pour les marchés, c'est deux éléments. Certes, il y a des entreprises, donc c'est la bonne santé des entreprises, ça c'est normal, et on est dans la saison des résultats trimestriels. Mais l'élément qui est crucial, c'est d'avoir beaucoup d'argent. C'est ce qu'on appelle la liquidité sur les marchés financiers. Et aujourd'hui, vous êtes à des niveaux de liquidité qui sont records. Donc en général, quand même, c'est positif pour les marchés.
Mais est-ce que le rêve est pas en train d'atterrir, le rêve de l'intelligence artificielle? Est-ce que les marchés ne sont pas en train de se rendre compte qu'on a peut-être placé beaucoup d'espoir, ou en tout cas beaucoup trop tôt?
Ah, il faut avoir toujours conscience dans une innovation que ça prend plus de temps que prévu. Et c'est vrai que quand vous avez quelques éléments vous disant « Ah, l'IA, ça va faire des gains de productivité, etc. très rapide », c'est erroné. Déjà, il faut mesurer les gains de productivité. J'ai une formation d'économie, croyez-moi, c'est déjà compliqué. c'est le premier point. Et surtout, ça prend des dizaines et des vingtaines d'années. Donc, ça remet pas en cause la révolution de l'IA, mais en fait, il faut comprendre que ça va prendre un certain temps à avoir des vrais gains sur les entreprises et sur le quotidien.
On va évidemment surveiller l'ouverture des marchés financiers en Europe ce matin pour voir comment est-ce qu'il réagissent à la perspective ou au risque d'une guerre commerciale. Est-ce que vous, vous avez le sentiment aujourd'hui que les marchés sont devenus plus risqués, plus incertains, avec nécessairement plus de volatilité?
Plus de volatilité, ça on le constate sur tous les actifs, y compris les devises, les actions, l'obligataire, ça c'est très très net. Mais malgré tout, une tendance structurelle à l'hausse, en tout cas sur les actions, c'est ce qui est assez paradoxal, c'est que on s'habitue au risque, mais en même temps, on considère qu'on est toujours optimiste pour l'avenir, donc effectivement plutôt positif. Je vous avoue, même si ça va être volatile cette semaine, la réalité c'est que ça resterait haussier sur les actions. J'ai assez peu de doutes à cet égard.
Ouais, ça reste le meilleur placement à long terme. L'histoire nous l'a confirmé. Merci beaucoup. Merci. Christopher Dembick, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management.
Radio Classique,
Rediffusion de la matinale d'hier.
Bonjour Christian.
Bonjour David.
Donald Trump a menacé 8 pays de droits de douane de 10% sur toutes les marchandises expédiées aux États-Unis à compter du 1er février 2026, qui s'ajoute à l'existant évidemment, tant que ces pays, dont la France, s'opposent à l'annexion du territoire autonome danois par les États-Unis. Et la France a aussitôt répliqué. En quoi consiste la mesure de rétorsion brandie par la France ?
Eh bien, si les menaces de surtaxes douanières agitées par Donald Trump sont mises à exécution, Emmanuel Macron, qui a été toute la journée d'hier en contact avec ses homologues européens, va demander l'activation de l'instrument anti-coercition de l'Union européenne. Pardon. L'instrument anti-coercition qui a été institué par l'UE en 2023 et qui n'a encore jamais servi a été conçu pour faire face aux pays qui se risquent à restreindre les échanges commerciaux pour tenter d'imposer un changement dans les politiques de l'UE. Exemple typique, la Chine qui avait imposé des restrictions commerciales à Lituanie après que Vilnius avait annoncé l'amélioration de ses relations commerciales avec Taïwan en 2021. On l'aura compris, donc, l'instrument anti-coercition vise principalement la Chine. Or, voilà qu'il serait appliqué aux États-Unis.
Et alors, est-ce que la France seule peut activer cet instrument ?
Eh bien non, David. L'activation de cet outil requiert la majorité qualifiée des pays de l'Union européenne. Et on se doute bien que les pays qui sont ouvertement pro-Trump, comme la Hongrie ou la Slovaquie, mais peut-être aussi l'Italie, vont renacler. Mais ce n'est pas le fait le plus marquant ce matin. En cas de fracturation du camp européen, on voit bien que l'avenir de l'OTAN serait en cause. Mais pour l'instant, on voit surtout le contraire. Une solidarité européenne incroyable qui s'affirme autour du Danemark, comme le montre le net rapprochement entre Paris et Berlin, auquel s'est joint Londres. Franchement, quand vous lisez les communiqués et les déclarations des Britanniques, c'est un ton inhabituellement ferme à l'égard des États-Unis. L'anti-coercition permet entre autres le gel de l'accès au marché public européen ou le blocage de certains investissements en Europe visant le pays concerné. Mais Macron va encore plus loin. L'Élysée estime que les menaces commerciales américaines posent la question de la validité de l'accord sur les tarifs conclu entre l'Union européenne et les États-Unis le 27 juillet 2025 à Turnberry en Écosse. C'est ce fameux accord humiliant pour les Européens qui a infligé des droits de douane globaux de 15% à l'Europe et 50% sur l'acier et l'aluminium, s'il vous plaît, contre seulement 10% imposés au Royaume-Uni. En menaçant d'augmenter subitement les droits de douane à cause de ses prétentions sur le Groenland, Donald Trump fiche par terre littéralement l'accord de Turnberry qui était pourtant totalement favorable aux Américains.
Alors évidemment, on redoute une escalade qui va mettre l'économie européenne par terre avec des effets imprévisibles entre les États-Unis et l'Europe.
Alors, soit c'est une partie de poker et qu'il ne faut absolument pas avoir peur de la surenchère. Il faut montrer qu'annexer le Groenland aura un coût élevé pour les États-Unis. Ce ne sera pas gratuit. Donc, il faut rester ferme. Soit c'est plus sérieux et on entre alors dans un engrenage qu'il faut vraiment anticiper. Alors, d'ores et déjà, notamment, il faut anticiper la réplique de Trump qui peut parfaitement consister à brandir la menace militaire contre l'Europe. Alors, que fait-on si c'est le cas ? Eh bien, il ne faudra pas être pris au dépourvu. Il faut d'ores et déjà se préparer à toutes les hypothèses.
Christian Macarian vous aura prévenu pour l'écho du monde. À demain, Christian. On trouve votre podcast sur l'application Radio Classique.
Radio Classique, rediffusion de la matinale d'hier.
Radio Classique, le journal imprévisible.
Avec Marc Bourreau.
Bonjour David. Marc.
Nous sommes le troisième lundi du mois de janvier, oui. Traditionnellement appelé le Blue Monday, oui. Le lundi bleu, soi-disant le jour le plus déprimant de l'année. La déprime, ses symptômes et surtout ses remèdes, c'est le thème ce matin de votre journal imprévisible.
Ah oui, c'est presque mathématique, David. Un soupçon de ciel gris, plus des nuits qui démarrent à 16h30.
Vous ajoutez à cela la fatigue d'après-fête, les résolutions non tenues, une actualité anxiogène, vous obtenez une belle déprime saisonnière.
Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes sans ventes et terminer bonsoir.
Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir.
Ah oui, la mélancolie sous un ciel d'ardoise et un plafond bas, ça concernerait 20% de la population française en hiver. Une déprime saisonnière qui s'ajoute à toutes les autres.
T'es pas gay, toi.
Oh, tu le connais, hein, Georges, c'est le contraire d'un gay.
Et qu'est-ce que tu veux que je fasse ?
Un numéro de claquette ?
Ah oui, il y a les irrécupérables qui s'ajoutent au cafard de la rentrée ou ce blues de fin de week-end qui chamboulait Jacques Brel.
Et nom de Dieu, c'est Aristoli le dimanche. Avec ou sans Béco.
La sérotonine se détraque aussi dans la littérature où l'on se morfond inexorablement comme Michel Houellebecq.
En vieillissant, on est tous confrontés à une forme de dépression inévitable.
Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle.
Voilà, nous avons touché le fond, David. Hippocrate aussi avait son mot à dire dans sa théorie des humeurs. La rate déverserait dans le corps humain de la bile noire qui déclencherait cet excès de mélancolie. Ça donne l'expression « se mettre la rate au courbouillon ». Ça donne aussi ce spleen si cher à Baudelaire qui pointait déjà du doigt le ciel et le mauvais temps dans son spleen de Paris.
L'âme d'un vieux poète erre dans la gouttière avec la triste voix d'un fantôme frileux.
Est-ce qu'il ne vaut mieux pas en rire de cette fameuse déprime ? Il vaudrait mieux. Raphaël Mesrahi conjure le sort depuis 12 ans avec sa nuit de la déprime à base de distribution de mouchoirs, de pâtes à tartiner et de chansons tristes. Un monde où tout le monde est prêt à déprimer dans la bonne humeur.
J'ai appelé Enrico Macias pour lui demander de venir chanter « J'ai quitté mon pays ». Donc il est mort de rire. Après j'ai pu à Nicoletta, il est mort le soleil. Adamo tombe la neige. Hugo Fraisse, Céline Sciobal. Par exemple, pour plomber l'ambiance, j'ai appelé Henri Lecomte. J'ai dit, tu seras dans le hall. Tu tiendras le stand. J'ai jamais pu gagner Roland Garros. On va jusqu'au bout du bout, quoi. Tout le monde m'a dit oui. Essayer de faire au mieux pour faire le plus de bien. Le reste n'a aucune importance, quoi. Il y a toujours une issue de secours dans la déprime.
Mais oui, il y a eu des issues de secours, un bon carré de chocolat noir, du poisson gras, des fruits à coque et un écart de temps à autre pour les plats en sauce.
Essaye des trucs salés, ça passe tout seul. Quand on mange sain, sans produits chimiques, il n'y a jamais de contre-indication. Ça vaut quand même mieux que des barbituriques.
Le Blue Monday, c'est un morceau du groupe New Order. C'est aussi une formidable opération commerciale, David. Ce lundi bleu, en vérité, n'existe pas. Il est monté de toutes pièces depuis 2005, sans aucune base scientifique, par une compagnie aérienne britannique, dans le but de vendre des billets pour le soleil. Le business de la déprime pour augmenter les ventes, comme cette chanson parfaite, élaborée par un professeur de l'université de Sheffield en Angleterre, 137 battements par minute, une succession de 4 accords savants, le tout financé par une marque de yaourt. Alors oui, mieux vaut en rire, un bon antidote simple et gratuit venu d'Allemagne. Pas moins de 40 clubs de rire chaque hiver dans tout le pays, qui tournent à plein régime pour passer les mauvais moments. On rigole, on imite les animaux de la basse-cour et tout autre subterfuge pour détendre les zygomatiques.
Quand je vais mal, je vais me promener et je fais ça. Je frappe des mains, les nerfs se rencontrent et ça irradie tout le corps.
Ici, je me recharge les batteries pour toute la semaine. Parce qu'à la maison, on a perdu le sens du rire. Ici, je rigole.
Alors dépêchons-nous de rigoler, de taper dans nos mains, de croquer dans le chocolat. Le temps presse, il ne vous reste plus que 2 petits mois, David, avant l'arrivée du printemps.
Vous êtes dans une mauvaise passe, mais le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin.
Je suis dans un état proche de l'Ohio, j'ai le moral à zéro.
Il y a toujours une issue dans la déprime, disait Raphaël Mesrahi, organisateur de la nuit de la déprime. C'est dans quelques semaines, je crois, mais aujourd'hui c'est Blue Monday. Et vous nous aidez à en sortir, Marc Bourreau. Il nous faudrait un peu de soleil quand même, parce que la lumière, c'est très bon pour le moral.
La luminothérapie, toujours.
Vous retrouvez le journal imprévisible de Marc Bourreau sur l'application Radio Classique.
Radio Classique, rediffusion de la matinale d'hier.
Bonjour David Barrou.
Bonjour David Abiker.
Un an après le retour de Donald Trump à la Maison Blanche et au lendemain de la relance d'une guerre tarifaire, que doivent faire les entreprises pour s'adapter à cette nouvelle donne?
Donald Trump a déjà changé des choses de manière très objective et mesurable. Quand il impose de nouveaux droits de douane de 15% l'été dernier aux exportations européennes, cela a un impact économique à court terme et un autre à moyen terme. Le court terme, c'est que ça pèse sur la compétitivité ou sur l'attractivité du Made in Europe. Et donc, cela va lentement, mais sûrement nuire à nos exportations. Et sur la durée, cela peut pousser les entreprises qui veulent continuer à se développer sur le gigantesque marché américain à localiser une partie croissante de leur production sur le territoire des États-Unis. Mais finalement, au bout d'un an de méthode Trump, on se dit que ça n'est presque que l'écume des choses, tout ça. On parle de changements face auxquels les entreprises peuvent s'adapter. Ça peut être coûteux et douloureux, mais si on a de la visibilité, on sait quoi faire. Mais Trump, malheureusement, ça n'est pas que ça.
Qu'est-ce qu'il a changé d'autre pour les entreprises dans sa politique, Donald Trump?
Moi, je retiendrai deux mots, imprévisibilité et arbitraire. L'imprévisibilité, c'est le fait qu'avec lui, plus rien n'est sûr. On peut négocier un deal en juillet et il peut le balayer d'un tweet quelques mois plus tard. C'est catastrophique car on peut plus rien prévoir. L'arbitraire, c'est un peu la même chose, mais en pire. Historiquement, les États-Unis étaient un pays de droit et de contre-pouvoir. Une entreprise pouvait investir dans un cadre défini. La loi pouvait faire évoluer les règles, c'est sûr, mais on pouvait défendre son point de vue auprès des politiques ou devant des juges. Aujourd'hui, on a un président qui décide tout seul et qui se fiche de la loi. Il décide par décret, il sanctionne sur des coups de tête. Pour les entreprises qui sont dans le temps long, qui doivent prendre des risques de façon mesurée, en planifiant des retours sur investissement, c'est un vrai casse-tête. Trump pense qu'à long terme, au moins, ce qu'il fait sera bon pour son pays. Mais pour l'instant, le risque, c'est qu'on replonge tous dans un brouillard très épais. On ne voit pas où on va. Et quand on ne voit pas où on va, on fait quoi? On ralentit pour éviter l'accident. Les entreprises pensaient qu'elles commençaient à comprendre Trump et elles s'étaient remises en mouvement. Là, le risque, c'est à nouveau celui d'une grande paralysie, ce qui pèsera sur le dynamisme économique de l'Europe, mais aussi, il faut l'avouer, des États-Unis.
Et n'oublions pas que nous sommes pris entre le marteau et l'enclume. D'un côté, la politique tarifaire de Donald Trump que vous venez de citer, et de l'autre côté, un mauvais budget pour les entreprises, en tout cas en 2026. Tout cela risque de mettre l'économie française par terre. Merci David, à demain.
Radio Classique. Rediffusion de la matinale d'hier.
Et Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro. Guillaume, bonjour.
Bonjour David.
Alors, question, c'est comme être ou ne pas être. 49.3 ou ordonnance, on le saura dans la journée, mais en toute hypothèse, peut-on dire que sur le budget, c'est mission accomplie pour Sébastien Lecornu?
Mission accomplie, oui, dans la mesure où après ces annonces de vendredi et après la réaction des socialistes qui, sur cette base, semblent confirmer qu'ils ne